Donc on est dimanche matin, cité Champfleury, hein, devant le bâtiment C. C'est la polyradio Bucket qui s'installe. L'émission donc qu'on va consacrer à tous les gens qui s'occupent du monument d'Euleuze et qui nous ont aidés à mener cette opération radio. Donc on va faire un petit tour de table, vous allez vous présenter déjà peut-être.
Je m'appelle Nordine Afefia.
Moi je m'appelle Fred.
Abad. Samir. Raymond.
Fatek.
Peller.
Langoué.
Ahmed.
Abdel.
Nordine.
Fred.
Mourad.
Donc là depuis maintenant 3 semaines, le monument d'Euleuze est installé là devant chez vous. Ça s'est passé comment déjà avec Thomas?
Ça va, ça s'est bien passé. On a réussi le monument, on a réussi à faire cette œuvre avec lui. Tout l'été, pour l'instant, ça marche bien.
Et qu'est-ce que t'attends de ce monument, toi? Qu'est-ce que ça t'amène? Tu sais que c'est dans l'exposition La Beauté.
Ouais, mais
Et c'est quoi la vision de la beauté pour Thomas? Pourquoi il a amené ça?
Je sais pas, c'est lui qui est venu, qui nous a proposé cette œuvre. Et on a réussi avec lui, c'est tout. Non, c'est pas pour cette question. Il nous a donné le plan et on l'a fait avec lui.
C'était quoi sa motivation pour venir ici, tu sais?
Sa motivation, c'était seul objectif. Construire son monument ici, en plein cœur de la cité, tu vois, dans l'extramuros.
Son idée de beauté, c'est faire partager la connaissance, non? C'est un peu ça que j'ai cru comprendre, là.
Ouais, c'était surtout aussi pour faire découvrir aux jeunes de quoi on pouvait avoir dans le quartier, tout ça. Voilà, quoi.
Moi, toi, je voudrais poser une question. Donc, est-ce que pour toi, c'était une bonne idée de l'avoir installé ici? Parce que tu sais qu'il y a eu une polémique autour du lieu pour la statue de Euleuze Monument.
Les gens, ils parlaient beaucoup, ils disaient que ça n'allait pas marcher, tout ça. Fin de compte, bon, on a réussi à se mettre tous d'accord. Et voilà, quoi. On a voulu le faire en plein cœur dans notre quartier et on a réussi à le faire.
C'était surtout leur prouver que vous étiez capable,
voilà, capable
de tenir un projet du début
de
à la
faire
fin.
Quelque chose. Capable de faire quelque chose, surtout. Et on a fait, voilà.
Ça vous a donné la possibilité de prouver que vous pouviez réussir?
Ça nous donne surtout envie de se libérer, si on préfère, de partir ailleurs, travailler ailleurs. Mais je veux dire, ici on n'a pas trop le choix.
C'est-à-dire?
Ici, c'est-à-dire que c'est un ghetto, vous avez vu que c'était une cité. La plupart des jeunes, dès qu'ils se collent, ils se lâchent plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir faire quelque chose, c'est impossible. C'est impossible.
Tandis que là, avec ce projet, c'était un peu une évasion pour vous?
C'était pas une évasion, puisque ce projet il a été construit dans le quartier. Je veux dire, nous, on y est dans le quartier, que ce soit jour ou nuit. On y est, toi, on est là, nous, on ne bouge pas du quartier. Donc pour nous, le monument de l'Euleuze, c'était un truc juste... C'était pour nous, c'est une idée, quoi. Tu vois, c'était un truc original, tu vois. Et voilà.
En même temps, une œuvre qui, avec un artiste qui vous faisait confiance.
Une œuvre qui vit, voilà. Une œuvre qui vit, comme on dit. Mais c'est l'été, c'est bien.
Tu dis que c'est pas possible de sortir de la cité. Pourquoi c'est pas possible? Et qu'est-ce que tu aimerais faire si tu pouvais en sortir, là?
Déjà, une chose. M'espacer de la ville. Aller vers d'autres projets. Essayer de montrer la voie aux collègues de derrière. Peut-être que c'est comme ça que déjà, d'une bonne chose, on commencera à apprendre quelque chose de la vie.
Tu penses que les collègues de derrière, justement, ils manquent de direction, ils manquent de ça, ils n'ont pas un sens à...
C'est-à-dire qu'ils ne manquent pas de direction, il leur manque aussi un peu d'affection, si vous préférez. Il faut quand même que, d'une part ou l'autre, on soit soudés, parce qu'on a tous grandi ensemble. Si on n'est pas soudés, on ne peut pas être bien, c'est pas vrai. On a grandi tous ensemble, il y en a qui ont fait quoi, 21 ans dans le quartier, il y a des jeunes de 21 ans, tout ça, là, comme Patek, ou sinon il y a... Nordine qui a 17 ans, bon ça c'est les plus jeunes encore, les ados. Si on n'est pas soudés, qu'on ne nous tire pas un peu plus par derrière, on ne peut rien faire d'autre.
Tu parlais d'affection, qu'est-ce que tu entends par affection? Il vous manque de l'affection?
Bouger, déjà réfléchir, prendre un moment de détente avec les collègues, réfléchir, pourquoi pas réussir un jour ou l'autre.
Mais est-ce que quand tu dis affection, ça ne marquait pas plutôt... le terme de respect, qu'on vous respecte?
Pas tout à fait respecté, c'est-à-dire parce que, je veux dire, le respect, en quelque soi-même, on l'a tous. En parlant d'affection, moi je dirais, c'est plutôt se libérer à travers d'autres projets, voilà, d'autres horizons, comme on dit, comme tu dis, toi, Nordine.
Et dis-moi, quand tu dis rester groupé, rester soudé, mais est-ce que ça n'empêche pas aussi que chacun se développe dans sa voie différente, tu vois?
Oui,
que tout le monde doit rester groupé, donc tout le monde doit rester là.
Ça, c'est sûr que tout le monde est obligé de partir.
Tu ne penses pas qu'il y en a qui doivent partir, chercher et ramener après
Il y a toujours des voies, je veux dire. il y en a tellement de devoirs que nous on ne sait pas. Je veux dire, dès que vous grandissez 21 ou 18 ans dans le quartier avec des jeunes collègues et tout, à vous, vous dites quand même, attends, tant qu'à faire, on est encore un peu là, et si le jour où on voudra faire quelque chose, eh ben, peut-être qu'il se lèvera, il partira de sa voie, et peut-être que, on ne sait jamais, l'autre, il le suivra par derrière, et ainsi de suite. C'est comme ça que peut-être on réussira à s'en sortir.
Il y a une prise de conscience qui s'est faite depuis peu, en fait. Avec ce projet, vous avez vu que vous avez des possibilités de réussir des projets, et maintenant, ça doit vous donner envie de faire d'autres choses.
Ah oui, on a des... Moi, j'ai conscience à ce projet parce que, d'abord, s'il a été réalisé, il a été réalisé par 13 jeunes de quartier. Ce projet, depuis qu'il a été réalisé, je sens qu'il y a un peu un changement un peu dans le quartier. Il y en a qui ont conscience de ce projet qui a été réalisé par eux-mêmes. Mais il y en a, ils ne savent pas si ce projet il va revivre ou si il n'existera plus.
Et vous, ça ne vous donne pas envie d'en prendre en charge des projets, justement ? D'être les moteurs, quoi.
Ça serait sympa d'en prendre en charge, d'être les moteurs des projets, comment dirais-je. Mais déjà, de une, il faut être expérimenté. Et de deux, c'est un peu dur pour diriger ça avec une bande de copains. C'est vrai qu'on peut le faire, ça pourra tenir quelques temps, mais pas entier.
Mais une bande de copains, d'abord c'est une bande de copains, après ça peut être une équipe et ça peut devenir, si tu veux, une force créative.
Ça peut devenir comme ça. Mais je veux dire, avant que la force créative elle arrive, il faut savoir aller dans certaines bases. De A à C, par exemple. Voilà. Il faut comprendre avant.
Tu nous dis, toi, comment t'as vécu l'installation et...
Non, mais j'étais pas.
T'étais pas ?
Ouais, j'étais pas au projet, mais après j'en ai entendu parler. Et j'ai un peu assisté, j'aurais donné un peu un coup de main au montage, et voilà, un peu à la surveillance.
Et bah, tu participes alors beaucoup à l'opération, alors ?
Non, pas trop, parce que moi je travaille aussi.
Donc tu reviens ici le soir et tu t'occupes un peu du...
Ouais, ça m'est arrivé un peu aussi de leur tenir compagnie le soir. Hein. Et comme aussi au montage, là aussi. J'aurais aussi donné un coup de main.
Et est-ce que tu as ressenti un changement, toi aussi, à travers cette œuvre ? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau des mentalités ?
Oui, un peu au niveau des mentalités. Parce qu'il y a aussi, pour accueillir les gens qui viennent visiter le monument, quoi. Là, il faut savoir les accueillir, leur parler un peu du projet, comment ça s'est passé et tout ça. Ça a un peu évolué par ici.
Donc maintenant, vous savez comment accueillir. Ça doit vous donner aussi envie de faire autre chose maintenant. Vous êtes capable, ça prouve que vous êtes capable de faire des choses intéressantes.
On se sent d'arriver à faire autre chose, quoi. Se lancer sur un autre projet, quoi. Là, on se sent...
Et toi, personnellement, tu as envie de faire d'autres projets ?
Oui, personnellement, oui.
Quelle sorte de projet ?
Un peu comme l'œuvre d'art, là. Un peu comme ça, là.
Donc tu penses que c'est plus qu'une animation qui a été proposée ici pendant 2 mois, quoi. Ça va amener d'autres choses que... Parce qu'on aurait pu mettre un manège aussi ici pendant 2 mois.
C'est ouais, c'est plus fort qu'on ait fait ça, de participer et tout ça.
Et en plus, Antoine, c'est quand même la première fois qu'une œuvre... D'un artiste comme Thomas Hirschen soit exposé dans une cité. Ça a créé quand même des polémiques ici, puisque des gens qui viennent visiter trouvent que c'est un peu provocant. Pourquoi dans une cité, mais en même temps, pourquoi pas dans une cité ? La démarche de Thomas et Hirschen est intéressante, puisque c'est la première fois qu'on voit une œuvre qui se déplace autour des gens qui n'ont pas facilement accès à l'art. Et c'est ça la démarche de la culture, faire partager, c'est... C'est une évolution pour tout le monde, et puis ça leur donne une note d'espoir.
Parce que aussi au départ, parce que Thomas, il n'était pas censé le faire ici, mais il s'est dit je vais le faire dans une cité, ça va faire un peu bouger le quartier, un peu faire évoluer les jeunes, leur trouver une occupation. Et voilà, c'est ce qui s'est dit aussi. Là.
Je crois qu'il y a une cité qui a refusé d'abord, non ? Qui a pas voulu s'impliquer dans cette aventure ?
Comme la cité Ligro. Ça devait être implanté là-bas, mais et ils ont refusé.
Et tu sais pourquoi ils ont refusé ?
Non, pas trop. Non.
Et ici, vous avez été consulté avant, non ? Donc,
ils ont été consultés. Ils ont fait un peu le tour des portes. Il y a des gens qui ont signé, ils ont été d'accord. Et puis voilà, après, ça a été implanté ici.
Et tu trouves que c'est une bonne idée que ça a été fait ici, justement ?
Ouais, c'est une très bonne idée de le faire ici, quoi. Par rapport au quartier, aux jeunes, la situation et tout ça. Là.
Et pour la première fois, vous faites quand même partie du festival, puisque c'est dans autour du thème de la beauté.
Oui, on fait un peu partie du festival aussi.
Et faire connaître la cité aussi.
Voilà, c'est aussi faire connaître la cité.
Et ses habitants.
Voilà.
Est-ce que t'es déjà allé voir un spectacle pendant le festival, en ville, intramuros?
Non, en ce moment, je suis pas allé. Non,
non mais depuis les dernières années, là.
Oui, les dernières années, oui.
T'es allé voir des spectacles, ça t'est arrivé déjà, quoi.
Oui.
Et t'as trouvé ça comment? C'était intéressant?
Oui, c'était bien intéressant.
Rida, tu viens Dis-moi, toi, tu es l'aîné hein, de la bande, hein, je crois. Hein.
Moi et Kamal, on est les aînés.
Comment tu as vécu, toi, donc, cette installation, ce travail?
Comment je l'ai vécu? Ben, au début, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de stress. Puis il fallait parler avec le président de l'association du quartier voisin, Cité Luigo. Donc il n'avait pas voulu qu'on le fasse sur le lieu. Il disait que les jeunes risquaient de faire la pagaille.
Il n'avait pas confiance en ces jeunes. Quoi.
Voilà, en quelque sorte.
Bravo.
Et puis les jeunes ont confiance en eux-mêmes, puis ils ont continué parce que... À un moment donné, parce qu'il venait me relancer sur Thomas, parce que je suis l'un des premiers contacts avec, donc il me relançait indirectement, parce que vraiment ils avaient des projets en eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas extérioriser. Donc ils étaient là, et puis là Thomas est arrivé, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à toi d'ailleurs. Voilà quoi.
J'ai l'impression qu'il y a eu
donc,
une
c'est
histoire
une
assez
chaîne,
forte avec
c'est,
Thomas.
C'est une chaîne autour d'une œuvre d'art. Malgré tout ce qui a pu arriver, je ne sais pas moi si c'est... Je ne sais pas si c'est un amalgame de réactions qui a fait qu'on arrive là. Mais il y a une grande participation parce que pour eux, c'était quelque chose qui arrivait. Ils ne savaient pas encore ce que c'était une partie. Bon, il y en a qui ont été à l'école, qui savent leur dire ce que c'est des arts plastiques et tout ça. Mais ce que c'est qu'une œuvre d'art dans une cité, ils ne pouvaient pas eux-mêmes... Même moi, je ne pouvais pas aussi. Et donc, petit à petit, ils ont eu une forte participation de la part des jeunes. Et ils font, c'est-à-dire, ils sont, avec nous sommes, même, de toute façon, même nous, une partie animée de l'art. Voilà, le musicien, lui, c'est le musicien du groupe, et il a travaillé avec nous. Parce que quand même, c'était un artiste, ça fait plus de 15 ans qu'il fait de la musique. Moi, c'était un cas, je passais par là, j'habite là, donc je me retrouve dans cette situation.
Comment ça, tu passais par là? Toi, ça fait pas longtemps que tu es ici?
Non, je suis pas. Ça fait ici 6 ans. Avant, j'étais dans le bâtiment A en 1980, j'habitais dans le bâtiment A. Dans les années 80, il a été démoli, le A, puis l'autre est arrivé là au C et au D.
Donc,
je sais pas si c'est une sorte d'ABCDR de bâtiment, peut-être, je ne sais rien. Et donc, on est arrivé sur la lettre C, C qui veut dire union et chanfleurie, ce que tu veux, et on travaille.
Il nous reste combien de bâtiments après le C alors?
Il y aura le C, le D, oui, je ne sais D, pas ouais. Si un jour on arrivera à ce qu'il n'y en ait plus.
Et il y a un programme
ou en a d'autres, mais autrement, j'en sais rien. Programme
si,
d'émolition
crois, ouais.
Derrière chaque bâtiment, il y a un programme de démolition. Ça peut être 100 ans, ça peut être 50 ans, ça peut être 5 ans. Donc, derrière chaque bâtiment, il y a un programme. Comment il est effectué, je ne sais pas, parce que c'est vrai que nous dire, bon, demain on détruit, vous partez. Déjà, à la base...
Ça veut dire on vous met...
voilà, on détruit déjà. Bon, là, elle est là, l'œuvre. Là, l'œuvre, elle est là. On détruit, vous partez. Je crois qu'en quelque sorte, non, l'œuvre est une... Fait bien d'être là. Voilà. Fait bien d'être là. Et vous, d'ailleurs. Vous et Thomas, Grégoire, tous les artistes qui se sont mis là-dedans. Je pense que c'est quelque chose de très fort. Nous, on a une participation peut-être qui peut paraître physique, mais elle n'est pas seulement physique. Elle n'est pas seulement physique, parce que quand même, il y a des apports d'idées, il y a des petites choses que chacun amène, parce que chacun a quelque chose à amener. Et on se retrouve tous là, on travaille ensemble pour Deleuze. Je ne l'ai pas lu. J'en ai lu quelques extraits, mais personne ne peut dire avoir tout lu de Deleuze. Et Deleuze, c'est, comme il disait l'autre, 1000 plateaux. Alors, on peut partir sur la musique, sur la communication, sur toi, sur lui, sur moi. Et donc, on le retrouve chaque fois dans Deleuze. En quelque sorte, c'est une sorte de précurseur visionnaire. Mais est-ce ça vraiment? Donc, mais par contre, on remarque qu'il y a un effet actif, présent, d'être humain sur Deleuze. Ça a été toujours... une partie théorique. Et là, non, elle est physique. C'est, donc, par l'intermédiaire, bien sûr, de l'art contemporain,
en musique, et en, parce que bon, pour le médium artistique, c'est ça, c'est, je crois que c'est votre vision, j'en sais rien. Moi,
c'est Thomas qui a réussi à vous faire passer, lui, cette envie et cette passion, je ne sais pas si c'est une passion qu'il a pour Deleuze, mais en fait, c'est
non, confiant. Non, faut pas confondre passion et œuvre d'art. Passion et œuvre d'art, dans le, parce qu'il y a la passion d'une œuvre d'art qui a existé, il y a une œuvre d'art qui existe, qu'on découvre, on passe, on découvre une œuvre d'art, elle nous plaît, c'est de la passion différée. Donc je ne dirais pas ça passion, je dirais, je ne sais pas, s'il y a un autre mot que passion, je pense que je le mettrai moi. Voilà, passionnant comme il dit lui, passionnant, mais pas passion, tu comprends le
verbe ? Il vient de s'asseoir à la table avec nous. Alors toi aussi, tu es un des maîtres d'œuvre de cette aventure, oui, ici dans le quartier.
Moi et les 11 autres collègues, quoi. On était 11, 13 je crois. 13 Rida, c'est ça ? 13.
Ça porte bonheur.
Voilà, on était 13.
Je suis pas tellement superstitieux, mais je pense que ça portera bonheur puisqu'on est encore là et encore ensemble.
Ça marche.
De toute façon, on sera toujours ensemble. Mais maintenant, est-ce qu'on sera ensemble pour une autre œuvre, pour autre chose ?
Ben ça, on ne sait pas.
Une œuvre avec un autre artiste, parce que nous aussi, on se propose à participer, à aider les artistes, parce que c'est eux qui sont venus à nous. Alors nous, on dit aux artistes, on vient vers vous. Voilà. On se propose à eux.
Là, on a inversé la démarche.
Voilà, voilà, on a inversé la démarche. On vient vers vous, on est là.
Eh bien, Thomas, comment on l'a connu ? C'est Kamal qui l'a connu exactement avec Samir.
Kamal,
oui. Kamal. Ouais. Il est passé comme ça, il a vu Thomas, bon, il voulait faire une œuvre. Bon, il leur proposait les gars du bâtiment, quoi, du quartier. Eh bien, voilà, il a de suite sorti sur l'occasion.
Comment ça s'est passé, Kamal ?
Ben, on l'a rencontré au PMU au début. Ouais, on en a fait un ami au début, autour d'un pot. Ensuite, commencé à discuter, ils nous avaient dit qu'ils voulaient faire un projet sur la cité Louis Grand, une cité voisine. Nous, on était d'accord avec lui, bon, ça nous emballait, c'était à côté de chez nous, c'était une cité proche, ça nous emballait, il nous avait dit que ça pouvait être rémunéré, c'était encore mieux pour nous, on ne travaillait pas à l'époque. Bon, c'était bien parce qu'il se proposait à faire travailler les habitants du quartier. Bon, malgré qu'ils ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, c'est un homme qui a une volonté de faire et qui ne baisse jamais la tête. Il est parti jusqu'au bout, même si on n'est pas encore le 1er octobre, il a fait son bon bout de chemin avec nous. Bon, qu'il n'a pas accepté à Louis Gros, on lui a proposé de venir devant chez nous. Comme il voulait le faire avec l'habitant, on s'est proposé avec les gens du quartier. Bon, moi et Samir, c'est un collègue, c'est un bon pote, t'es d'accord à 100%, on avait peur qu'il y ait un peu de restreinte par rapport au quartier, des gens du quartier. En fin de compte, tout le monde a été emballé. Tout le monde était d'accord à 100% pour qu'un projet comme ça se fasse au quartier. Bon, ben ensuite, le résultat, vous le voyez, puisqu'on est à la radio, ils l'entendent. Ils entendent l'enthousiasme de tout le monde.
Enfin, on est allé voir les gens des quartiers, quoi.
Ça a été bizarre. Tout le monde est venu dire, tiens, je vote. Mais pourquoi il n'y avait pas d'élection ? Tiens, je vote. Et c'était voter pour l'idée. Et je pense que cette participation, comme ça, spontanée de tous les habitants, je pense que c'est un sens. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un artiste, je suis un habitant. Mais je pense qu'il y a une possibilité de sens dans cela.
Tu vas rigoler.
Je pense que c'est ça.
Il y a une petite chose que je veux dire. Quand tu allais voir les gens des quartiers, là, ils sont d'accord tout ça. Les gens des quartiers, ils croyaient qu'on allait leur changer leur WC, leur salle de bain, tout ça, tu vois. Ils ont signé, pas de problème, ils ont signé. Non, mais ça, c'est vrai, c'est vérité ce que je dis, tu peux dire à Thomas. Alors Thomas, il leur a dit non, c'est pour l'œuvre. Alors les gens, ils croyaient qu'on va, tu sais, les portes sur la table, changer la tout, quoi. Alors les gens, ils ont tout signé. Mais quand on leur a dit c'est pour l'emmènement, Ah, ben ça va, mais on l'accepte.
Et pour les municipales, ça va être pareil, tu crois ?
Ben, les municipales, je crois.
Il faut voter.
Ah, ouais, les municipales, pour voter, maintenant, les municipales. Pour qu'ils changent un peu l'environnement du quartier, quoi, je veux dire. Parce que le quartier commence à connaître tout, il faut qu'ils changent un peu. Je veux dire qu'il y avait Madame Roy qui est venue ici, bon, les graffitis qui étaient là, à 5-5, ils étaient enlevés sur l'école, quoi. Ah, ils ont enlevé à 5-5. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Tu vois ? J'arrive pas à comprendre là, pourquoi, hein. 10 minutes, les graffitis étaient tous enlevés. Donc pour avant, ils s'en foutaient. Bon,
les choses vont changer, je pense.
J'espère que ça va changer, quoi.
Je pense que les choses vont changer. Bon,
c'est pas question de vote pour ça.
Ça hein, voilà, ouais. Les choses peut-être vont changer parce que quand même, il y a quand même une conscience qu'il y a des gens quelque part qui veulent faire des choses, qui veulent par rapport déjà à l'intermédiaire des associations, déjà, qu'il y a beaucoup d'associations qui sont avec nous dans la, qui de loin, quand même de loin. Nous disent qu'on vous soutient parce qu'elles réalisent que c'est un projet qui a une valeur par rapport à l'individu, à l'être, au groupe, aux gens. Quelqu'un me disait que c'était la sphère publique, j'entends ce mot, sphère publique, c'est vrai, c'est une sphère publique et donc il y a toujours, il faut des centaines d'intervenants pour une sphère publique. Et on fait partie des 13 ou 15 ou 20 premiers, je pense, ou 30 premiers sur le site d'Avignon et de la beauté. Malgré que le site d'Avignon, il faut bien se rappeler qu'Avignon, c'est une ville quand même culturelle. Ça, c'est pas pour... C'est simplement par esprit de souci culturel que je parle d'Avignon.
Et qui en profite de cette
culture ? Parce que quand même, il y a un historique. Qui en profite, c'est vrai. Qui en profite. Nous le savons, tout le monde le sait, qu'il y a un profit quel que soit derrière les murs. Oui. Quand il y a un mur, c'est pour prendre autre chose. Donc le mur existe pour ça. Ça a été de Berlin, de Chine, voilà. Et ainsi de suite. Ça, on le sait.
Donc, qui en profite finalement ? Je ne peux pas te dire qui en profite. Nous, que... la ville...
Tu vas au festival d'Avignon ?
Je suis allé deux ou trois fois. Quoi.
Et puis il est combien d'années que tu es là ?
Moi en 10 ans,
je suis toujours sur Avignon. Depuis 62, je suis à Avignon. Hein.
Donc le festival pour vous, c'est pas quelque chose qui vous concerne vraiment quoi. Parce non. Que bon, peut-être tu n'aimes pas le théâtre aussi. Et que...
Mais non, on fait du théâtre, on est avec les gens, ça fait des années qu'on aime les gens du théâtre. Mais nous, eux, derrière le mur et nous derrière le mur. On se regarde par-dessus le mur.
La barrière est là et physique.
La barrière est là, on n'est pas.
Alors c'est de la tragédie, c'est de la comédie, je ne sais pas. C'est de la dramatique, j'en sais rien. Mais c'est une façon de voir les choses. Maintenant, peut-être on les voit par la fenêtre de Deleuze ou de Thomas ou de Grégoire ou de toi et Lincoln, peut-être. Et ceux qui nous ont aidés, parce qu'il y a eu des intervenants qui ont quand même réalisé qu'il y avait quelque chose. Donc, je répète et je parle d'eux parce que c'est important. Parce qu'on ne les retrouve pas, ces gens-là, ailleurs. Donc, ou quelque part, des fois, quelqu'un sur Paris ou Lyon, on les a vus. Mais il y a des gens qui, quand même, sont en conscience de ça. Donc voilà, même Samir a la conscience de ça.
Samir.
De quoi ?
De tout ça, de ce qui se passe en ce moment dans la cité là.
Je pense que c'est bien.
Ouais. Il y a du monde qui est passé là.
Ouais, beaucoup.
Qu'est-ce qui s'est passé spécialement quand les gens sont passés par là ?
Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a quelqu'un qui vient nous demander de mettre une vidéo. Ah.
Parle là.
Il nous demande de mettre la vidéo, de lire les livres.
Ouais, vas-y.
Moi je leur demande de mettre un mot.
Ils mettent un petit mot.
Ouais.
Et tu en as lu des mots de là-bas ? Qu'est-ce qu'il y en a qui a dit ?
Il y en a qui sont écrits en anglais.
Ah ouais ? Non, mais en français, qu'est-ce que tu te rappelles d'un mot spécial là-bas dans le cahier ? Parce que moi, franchement, je ne l'ai pas lu. Alors, si tu me dis, je pourrais...
C'est des enfants très accueillants.
Ah, d'accord. Qu'est-ce que moi, tu as ressenti ça ?
Comment ?
Quand lui, il a dit, ouais, c'est des enfants accueillants. Tu as été accueillant, toi ?
Moi.
Comment tu l'as ressenti, ça ?
Mais je le ressens bien.
Bien. Tu vois, il y a des gens bien qui passent quand même dans la cabane, et ça, c'est important.
Tiens, on a des invités là autour de la table, tu peux peut-être leur demander...
Voilà, je leur demande qui êtes-vous, d'où venez-vous, qui sommes-nous, que venons faire ici. Et puis voilà...
Nous avons donc Christelle, qui vient d'où ?
Estelle.
Estelle, pardon.
Je viens de Paris, enfin à côté de Paris, Saint-Ouen. Et Saint-Ouen, juste à côté de Paris, il y a un autre mur.
L'autre banlieue.
Une autre petite banlieue, la petite couronne de Paris. Et... moi, je suis vraiment très, très heureuse de... J'étais venue très, très rapidement voir tout le travail de Thomas et surtout de vous. Et en fait, je suis restée très peu de temps et j'ai eu en réalité le désir de revenir et de rester plus de temps. Aussi bien pour parler avec vous. Là, on arrive à une émission, c'est très bien. Et puis surtout, également, de voir le travail de tout l'atelier d'écriture que vous avez fait avec Jean-Charles Massera. Et ça, c'est très, très bien.
Oui, j'ai oublié de parler de Jean-Charles Massera. Parce que Jean-Charles Massera, c'est un cas spécial.
Ah oui.
C'est un cas spécial. Alors lui, c'est la flèche. Donc il fait de l'art, mais en tant que flèche. Il est tout le temps dans un train.
Oui, c'est l'homme du train.
Et j'ai compris par la suite comment il arrivait à concilier tout ça. Mais j'ai compris un petit peu, parce qu'on ne comprend pas beaucoup, nous, ici. De toute façon. Et donc j'ai compris que c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Et par-dessus, on a fait un travail sur Thomas, là, sur ce qui s'est passé. C'était passé par Fab, Kamel, avec les Moros, les frères. Les Moros, voilà. C'est deux frères, deux associés qui sont très, très forts en
tchatch.
Voilà, en tchatch, on a réussi. Pas en tchatch, non, c'est pas de la tchatch chez nous. Et non, voilà, c'est plus de la tchatch, c'est autre chose maintenant.
C'est quoi ?
C'est de la parole renvoyée.
Oui.
De la joute.
Parce que la tchatch, par exemple, tu comprends pas. Mais lui, ce que j'ai dit là, tu comprends ? Voilà, il comprend. Voilà. Donc, c'est pas de la tchatch. Parce que la tchatch, tu peux ne pas la comprendre, tu comprends ? Pas la tchatch, ça veut dire bagou. Alors que là, non, entre nous, c'est plus se lancer des phrases qui signifient quelque chose, même si c'est un mot de travers que quelqu'un ne peut pas comprendre, mais ça signifie quelque chose. Mais ce n'est pas pour te reprendre, la tchèche aussi, c'est bien la tchèche, parce que c'est le palabre, c'est la discussion, c'est plus ce style, voilà. Mais ça, sinon, c'est jeter une parole.
C'est la conversation, quoi.
Et donc, en parlant de Jean-Charles Masserat, c'est que je reconnais pour sa plume. Pour sa plume, il a réussi... il a réussi à percevoir ça. J'ai lu des extraits d'un livre qu'il m'avait offert. Et donc, je conseille d'ailleurs de le lire. Mais ce n'est pas de la vente, hein, ne faites pas de business, c'est une œuvre d'art. Et donc, et lui fait partie d'un des artistes. Donc voilà, on ne fait pas de pub. Hein, je pense que c'est une devise pour polir Radio Bucket. Et puis pour nous aussi, parce qu'on en a marre, on en transporte tellement sur nous que... Voilà, on a fait quelqu'un d'autre.
Donc moi je voulais poser une autre question à ton prénom. Muriel qui arrive de Nîmes, c'est bien ça? Donc qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Vous avez été surpris comme beaucoup d'autres personnes que cette œuvre soit dans une cité?
C'est-à-dire que nous on connaît le travail de Thomas Hichon par ailleurs, c'est-à-dire qu'on l'a rencontré dans d'autres, lieux. Et moi je trouvais très intéressant, connaissant bien Avignon et connaissant le rapport hors les murs, à l'intérieur des murs, qu'à un moment donné un artiste décide de sortir des murs et de travailler avec des gens de la cité, mais ce qui était juste aussi par rapport à son travail à lui, c'est-à-dire que je ne pense pas que tout le monde aurait pu faire ce travail-là. Et ce qui m'intéressait de voir ici, j'étais déjà venue une première fois, mais bon, il y avait beaucoup de monde, c'était les conditions de vernissage, mais... ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement quel était le véritable lien créé. Et effectivement, ce qui me semble une verbalisation et un écrit qui, moi, m'a semblé vraiment très intéressant dans la façon de vivre le lieu, ce qui fait que c'est un travail qui continue, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça n'avait pas été juste le temps du travail avec Thomas ou Jean-Charles, mais qu'aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire que le processus, en fait, est enclenché vers quelque chose. Ça me semble intéressant.
On a une autre personne qui est là. Bonjour.
Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est la manière dont tout ça, cette bibliothèque, dont elle est construite. Elle est construite avec des matériaux. Ce que je trouve très très beau, c'est qu'elle est construite avec des matériaux qui sont des feuilles de plastique, du scotch, et tout ça, c'est des matériaux qui sont près du livre.
T'imagines, ça pouvait pas les trouver, celle-là.
Voilà, c'est... c'est en même temps des matériaux que...
Actuellement, on parle
pardon.
Mais c'est pas pour embêter non plus.
Non. C'est vrai qu'on a pas... Moi, je fais souvent répéter parce que j'entends pas d'un côté. Ah, alors ça...
Et il fait la sourde oreille. Bon, je vous laisse continuer.
Oui, moi c'est surtout ça qui m'a beaucoup étonné. Puis j'ai appris aussi quelque chose. Je ne savais pas que les écrits de Gilles Deleuze avaient été traduits en arabe. Et j'étais très, très étonné d'ouvrir certains de ces livres que je ne peux pas lire, mais de les ouvrir de droite à gauche au lieu de... Ouais,
au lieu. Je vais pas les lire droite à gauche.
Et oui, hein? Et alors que j'ai l'habitude d'ouvrir les livres de gauche à droite.
De gauche à droite.
Ouais.
Vous voulez...
J'ai regardé.
Donc, ça s'est classifié de côté.
Ouais. Justement. Et ça m'a vachement, enfin, ça m'a étonné comme geste.
Vous avez un livre?
Pardon?
Vous avez un livre? Je vous montre quelque chose.
Je vais aller en chercher un alors.
Allez me chercher un livre, je vous montre quelque chose.
En attendant, Estelle voudrait ajouter quelque chose par rapport à cette expo donc, autour de la beauté du monument de Deleuze.
Oui, juste ce que je voudrais dire, c'est que finalement, par rapport à cette idée de la beauté, ce qui est effectivement beau, c'est que je crois que c'est avant tout la rencontre avec les personnes, que ce soit effectivement à travers la vidéo ou la rencontre, tout simplement, on arrive et il y a, je ne sais pas, un monsieur qui était assis là et qui nous a effectivement accueilli. Et je crois qu'en fait, c'est la beauté des personnes et de leur histoire qui peut-être dépasse l'endroit, le lieu. Et c'est cette dimension de la rencontre et de vous rencontrer qui est formidable. Et en fait, le travail de Thomas Hirschhorn, ici, à mon sens, il est le réceptacle, le point de rencontre. Et je crois que là, la beauté, elle est là.
Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est vrai que bon, j'ai été voir un petit peu les expos donc autour de la beauté au Palais des Papes. Ce qui est bien ici, c'est que ce monument est vivant. Il se passe plein de choses. C'est un lieu de rencontre et d'échange.
et c'est, il est amené à vivre et à continuer. Et je pense que toutes les personnes qui seront ici l'auront vécu. Il y a une présence, il y a plein de choses. Exactement. C'est une expérience avec plein de mouvements. Donc c'est ce qui est positif et je trouve que c'est génial qu'elle ait été faite dans ce lieu, dans cette cité, même si ça choque certaines personnes, mais c'est ça l'art avant tout.
De l'art, l'art, le social, les jeunes, nous, c'est tout ça. Le livre, je voulais te dire sur le livre. Alors si c'est un livre en français, on écrit comment ? On prend comme ça, on écrit comme ça. Mm-hmm. Si c'est un livre en arabe, on prend comme ça, on écrit comme ça. C'est ça ? Et donc, ce qui t'a paru que c'était curieux, c'était quoi ?
C'est un souci pour moi, parce que moi, j'ai appris le français et j'avais... il se trouve que j'essaye d'écrire 2-3 mots de suite en français. Mmh. C'est pas évident. Mmh. Et j'ai commencé, moi, à apprendre le français en étant dyslexique.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire mélangeant entre les B, les P, les D. Et quand j'étais petit, je me souviens que j'étais à l'école, j'allais chez un rééducateur pour ça. Et j'avais beaucoup de copains arabes à Saint-Étienne qui étaient dans le même cas que moi.
Et donc tu t'es dit, on ouvre le livre à gauche, ça m'évitera d'être dyslexique une seconde fois.
J'ai pensé
à la réincarnation, peut-être ça, mais moi j'ai expliqué la dyslexie. Comment se fait-il ? Peut-être, je ne sais pas, il y a des médecins qui disent que l'esprit est partagé en deux, que la tête, il y a l'animal, l'animus,
il y a un côté qui dit que
et ainsi de suite. Je crois que c'est ça. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est ça. Tu cours le livre pour écrire en français, après tu fais ça. Il y a toujours le côté pratique en Orient, qui est comme les feuilles en chinois, ou le côté pratique de l'écriture, qui doit être prêt, croit que pour les Européens, donc les Occidents, c'est regarder les images.
C'est par rapport au courant, quoi.
Ah ouais,
qu'on passe,
parce que le côté, le côté gauche, c'est reconnu comme un côté négatif. Voilà. Le côté diable et tout.
Voilà, exactement.
Avec les mauvaises ondes. Et c'est vrai que quand on rentre dans une pièce, il faut toujours faire attention. Il y a des traditions comme ça, avec le pied droit, avec...
Voilà.
Toujours commencer par la droite.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est une connotation qui est propre à l'islam. Voilà,
c'est juste par rapport au courant à l'islam, c'est tout. Mais...
Avant l'islam, ils écrivaient aussi. Ouais. C'est ça, c'est pas dire par rapport à l'islam quand même. Ah, il y avait des livres avant le Coran quand même.
Oui, il y en avait, bien sûr. Ouais. Ben ça, oui.
Non, pour moi, c'est un côté pratique. C'est-à-dire, tu ouvres, tu écris, tu tends la fesse, elle reste là, doit faire autre chose.
Et c'est pour ça qu'on arrive.
Et tu gardes la main droite.
Tu gardes la main droite pour bien tenir.
Mais dans la culture, c'est vrai qu'il y a un petit peu une contradiction, parce que justement, les chiffres arabes qu'on connaît, qui sont encore utilisés en Europe, sont, par contre, s'écrivent de l'autre côté, et c'est pour ça qu'ils ont dû laisser pour prendre les chiffres indiens. Parce que les chiffres qu'on utilise, les chiffres arabes, on les écrivait dans l'autre sens, donc il y avait une contradiction entre l'écriture et les chiffres.
Ah d'accord, ça je savais pas.
Et donc maintenant, on les a laissés, on a utilisé les chiffres indiens, justement.
Qui sont utilisés les chiffres dans l'écriture arabe.
Pour que ce soit, parce que ça commence dans le même sens.
Mais moi, ce qui m'a étonné, de trouver des livres en arabe sur Deleuze.
Oui, mais c'est
ça qui m'a étonné, surtout de trouver des livres. Chez où c'est que ça a été imprimé ? C'est au Maroc, je crois, non ? C'est au Maroc.
C'est imprimé où ?
C'est au Maroc que ça a été imprimé. Eh bien, moi, je...
Et en même temps, moi, ça m'a fait penser au film de Youssef Chaïm. Vous l'avez vu, le Destin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît de l'Antiquité, parce qu'ils sont venus dans nos bibliothèques, écrits en arabe.
Tu fais référence à Averroès.
Voilà.
Donc en Andalousie, tout particulièrement, où justement il y avait une certaine... il y avait un échange justement, puisque c'était l'apogée de la culture musulmane dans le bassin méditerranéen, où il y avait cet échange entre ces trois cultures, donc à travers les religions, donc entre l'islam, la religion chrétienne et la religion juive. Et c'est vrai que c'était un appel, ce film, à la tolérance.
C'est un beau film.
Le
film,
le mec qu'on voit et qui va en Égypte, il fallait le suivre, quoi. Il est très beau. Hein.
Peut-être qu'on lira Deleuze.
En arabe. Mais de toute façon, il y a une tradition, c'est vrai, dans l'islam, de la philosophie. Hein, c'est très apprécié. Donc pourquoi pas Deleuze, hein.
Et ici, dans la cité, les Il y a des cours d'arabe, les gens parlent
arabe.
Oui,
il y a des ateliers d'écriture d'arabe, il y a des profs d'arabe, il y a de tout. À la MJC, on peut apprendre l'arabe en étant adulte.
Ouais, mais dans le quartier, Reda,
dans le quartier. Dans le quartier, pas grand-chose dans le quartier. Quand on parle de quartier, ça me réveille.
Dans le quartier, il n'y a pas grand-chose.
Mais il y a eu une participation des jeunes dans les maisons de quartier qui ont quand même essayé de faire quelque chose. Mais ils font que leurs moyens.
La MJC, c'est la maison pour tous, c'est ça?
Oui, ouais, celle qui soi-disant est pour les jeunes, normalement pour tous les jeunes. Moi, un jeune, ça reste jusqu'à 25-30 ans. Ben, la MJC, dès lors de 18 ans, vous êtes mal aperçu, mal vu.
Qu'est-ce qu'ils vous proposent alors? Qu'est-ce qu'ils proposent aux plus jeunes?
Aux plus jeunes,
légalement, ils ne peuvent pas. Mais
plus de 18 ans, rien du tout.
Moi, je voulais poser une question à Jacqueline Blanc. Par rapport aux problèmes que rencontrent ces jeunes, donc ils sont ouverts à une culture, à la culture en général, à cette expo, donc vous avez vu le travail qu'ils ont pu accomplir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Il faut continuer. Pour moi, c'est, comment dire, une référence à la vie, globalement, que leur a apporté Thomas. J'ai été vraiment, à différents moments, impressionnée par la qualité de la relation qu'il y avait eu entre eux. J'ai été impressionnée par la pugnacité de Thomas, son exigence à leur égard. Je veux dire, il n'y a jamais eu de démagogie dans ce travail.
Ah oui, ça,
et ça, pour moi, c'est le succès. Ah, voilà. Je voudrais, j'ai bien entendu votre message, madame, il faut continuer après. Il faut que ces jeunes ne se retrouvent pas sans rien à l'issue de la maintenance de l'œuvre, là. On va voir, évidemment, j'ai ça en tête, ça m'obsède, et j'aimerais voir comment on va pouvoir faire des propositions. Ça ne dépend pas que de moi, hein, vous en doutez bien. C'est une communauté qui doit agir aussi, c'est important. Mais je crois que ce qui de toute façon restera pour l'ensemble de ces jeunes, c'est une expérience, même si l'œuvre quelque part s'estompe visuellement. Ce qui demeurera, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est la responsabilité qui leur a incombé, parce que toute leur valeur repose sur cette responsabilité, et pour eux, l'enjeu de réussir. Ils avaient finalement, contre les personnes qui se sont manifestées en opposition à l'œuvre, ils ont un enjeu à mener au bout, et je crois qu'ils sont en train de le réussir. Et j'ai bien compris que si tout marche, c'est aussi parce qu'ils sont portés par cela. D'autre part, enfin, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à différents moments, et Dieu sait si ça a été dur, ils ont eu des moments de tension extrême entre eux, n'est-ce pas,
hein? Entre nous, pas contre nous.
Non, entre eux.
On a eu la pluie, on a eu l'orage, on a eu...
Beaucoup de choses. Et chaque difficulté a été surmontée, et toujours avec exigence, voilà. Il n'y a pas eu franchement de compromis, je crois.
Ce serait vraiment très très important, il faut faire attention à ça. Qu'ils n'aient pas l'impression après qu'on les ait utilisés juste pour un moment donné, pour une manifestation dans le cadre de la culture, et ensuite qu'on les laisse livrer à eux-mêmes. Reda, je parle de vous. Ça ne reste pas seulement une expérience qui s'estompe avec le temps, c'est très important.
Je savais très bien que tu parlais de nous.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Parce que ça, c'est vrai, ça. Parce que moi, je suis, de temps en temps, je viens à la MJC pour répéter. On me met chaque fois les bâtons dans les roues. On m'empêche de répéter. On me dit, ouais, tu fais trop de bruit, tout ça. Et ça, c'est vrai qu'il faut aider un peu les jeunes à s'en sortir. Voilà. Merci.
Vous savez, je trouve très, très important, là, ce qu'il vient de se dire. Moi, je suis convaincue, vraiment. Et je souhaiterais avoir personnellement, me donner personnellement les moyens de convaincre toutes les instances qui sont à convaincre pour travailler avec moi sur l'aventure future, là. Et je vais vous dire, il y a quand même une leçon que je tire, c'est que puisque eux sont en train de gagner finalement l'enjeu que représente cette œuvre avec eux, eh bien, je pense que nous ne pouvons pas, nous, être en échec après.
Vous soyez à la hauteur.
On va se retrouver dans quelques temps.
Ouais. Ah oui, donc, quel que soit le cas, c'est vrai qu'on ne peut pas voler une œuvre.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé de la délinquance des jeunes. Depuis que ça a baissé. Et que vous aurez vu la délinquance des jeunes quartiers, elle a baissé carrément. Les jeunes viennent à l'aise, ces dames ici, ils n'ont pas été attaqués ou volés ou quelque chose. s'abaisser carrément. Mais les jeunes, il faut leur donner les moyens. Quand ils n'ont pas les moyens de faire des sorties, tout ça, bon, la plupart de leurs parents, c'est ils misent au chômage, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler, de faire des sorties, d'aller à la plage, tout ça. Voilà.
C'est bien parce que vous avez prouvé que vous pouviez respecter une œuvre qui vous respectait elle aussi.
Bien sûr, oui, exactement, oui. Thomas, bon, il le respecte. Enfin, Thomas, tous les 15 jours, il vient le voir. Il ne laisse pas tomber, bon, Thomas.
Je vous fais remarquer que Thomas a travaillé avec nous et comme nous.
Parce que Thomas, l'œuvre, il a fini, Thomas.
L'outil à la main, à chaque instant qu'on a construit la baraque,
il sous la pluie.
Beaucoup plus d'instants que nous. Ça, c'est, je tiens à souligner, à remettre à chaque chose, à chacun.
Si tu vois bien, Thomas, il a fini. Bon, il n'a plus rien à faire ici. Mais non, tous les 15 jours, il vient le voir. Il reste avec nous une semaine, 3 jours, 4 jours, une semaine, il repart. Il me téléphone, comment ils vont les gars, il revient, il vient le voir, mais il ne laisse pas tomber.
Et en plus, depuis qu'il y a ce monument-là, le quartier revit un peu, non?
Oui, oui, depuis c'est, qu'il c'est vrai qu'il revit.
On a fait, je crois, 2 soirées ici, là. Eh, c'est ça, non?
Deux. Déjà, mais 203, on en fera une autre.
Ouais.
Ça brise le ghetto un peu, non? Du coup, les gens viennent.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. Avant, oui, on voyait les jeunes et les femmes, viennent, tout ça, les personnes ne sortaient pas. Mais... Bah, depuis qu'il y a les monuments, des fois, ils font des fêtes, vous voyez les femmes se réunir ensemble.
Il y a beaucoup de gens, ils se... il y a beaucoup de
discutent,
gens.
Voilà,
c'est curieux parce qu'il y a un sentiment de curiosité, d'envie, de beaucoup de choses qui se mêlent à tout ça. Puis l'histoire de rencontrer le copain, tiens, on parle d'autre chose. Parce qu'à force de parler du dernier film ou du dernier match, peut-être, je ne dis pas que j'ai rien contre le match ou le film, hein, je suis en train de dire que c'est une habitude. Là, on en parle d'autre chose, mais de quelque chose qui n'appartient au rempart, qui n'est pas un film, qui n'est pas... Et c'est en même temps...
Mais ça ouvre les esprits, quoi, sur d'autres choses.
Ça, ça permet déjà de discuter, déjà.
Ça permet de prendre des contacts, si les gens de la cité, prendre contact avec d'autres gens de l'extérieur, quoi, je veux dire.
Des gens que
je ne connais pas, je commence à connaître ces dames, ce monsieur, d'autres que j'ai connus, avant que je ne connaissais pas.
C'est vrai, ça.
Avant que je ne parlais pas ouvertement avec eux, voilà.
Du coup, il y a l'hospitalité que vous offrez à ces gens qui viennent.
Donc avant que
et moi, c'est ce que j'ai ressenti en arrivant la première fois, c'est que j'ai garé ma voiture ici, et c'était bonjour, vous venez voir, et vraiment un accueil chaleureux, fort, tu vois.
Exactement. C'est-à-dire, avant, ils nous voyaient, les gens, ils partaient.
Avant, on se planquait pour rentrer chez nous,
maintenant, non, faut dire la vérité, la vérité en face, faut la voir. Bon, depuis qu'il y a la cabane, quoi, le monument de l'Euse, les gens ils sont là, ils se réunissent. Ils font des bolottes, des coins, des fois ils regardent des films vidéo, en dehors des...
Et tu disais que l'œuvre aussi, ça vous avait réuni autour, vous.
Ah oui.
Parce que vous étiez tous un peu satellisés dans les différentes cages d'escalier, et là vous retrouvez, et vous retrouvez vraiment, quoi, pour faire aussi d'autres...
Comment on a pris une joie à faire l'œuvre? Une joie.
Il n'y a que ça. Ça nous a apporté
quelque chose. Mais on rigolait pour le faire, l'électricité.
De comprendre qu'est-ce que c'est de l'Eus, parce que moi je ne le connaissais pas.
On a pris une joie de que.
Qu'est-ce que c'était de l'Eus? Est-ce que tu connaissais toi avant de l'Eus?
Non, moi avant je ne connaissais pas de l'Eus.
Voilà, parle un peu de.
À l'arrivée ici, il y avait confusion entre Thomas et de l'Eus.
Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
On prenait Thomas pour de l'Eus et de l'Eus pour Thomas. Thomas,
mais ce qu'il y a par contre, s'il
arrive ici, Thomas,
on voit. Belle conclusion.
Belle conclusion.
De Camar, je crois. Merci bien.
Merci à tous.
Bonjour à tout le monde. On peut passer. Bonjour à tout le monde. Les jeunes de la cité, dédicace ça à tous les jeunes de toutes les cités du monde. Et bien sûr, parce que c'est important. Et puis à tous les artistes qui nous ont aidés et tous les intervenants. Pour certains, à l'Algérie, pour d'autres, pour moi, c'est pour toute la Méditerranée et tout le reste. Le Maroc, la Tunisie, et ainsi de suite. Les pays où il y a des guerres aussi, je voudrais leur dire que les jeunes de Champfleury pensent à eux, parce que aussi en Champfleury est en guerre. C'est pas la même guerre, c'est un combat. C'est un combat peut-être de la vie, c'est un combat de la paix, chacun l'appelle comme il veut. Et on vous embrasse tous de Champfleury.
السلام عليكم والصبر اخوتي فين ما كنت في الدنيا راه ربي معكم الله ان شاء الله ما يكون الخير
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
في كوم بروفيسور او كوم اوبيرا ال كوم ليتيراتور اكس واي كوم انكونو ار كوم ريزيدانس ريزيستانس A comme animal, D comme désir, I comme idée, O comme opéra, B comme boisson, U comme un, C comme culture, K comme camp, E comme enfance, T comme tennis, Poli, Poli, Ra, Di, Ra. Poliradio Duquette. Moi. Je m'appelle Abdelak. Je m'appelle Mourad. Je m'appelle Abdelaziz. Je m'appelle Jamel. Je m'appelle Abdel. Maintenant, mon surnom. Squelette. Là, négro. Squelette. Canard. Serpent lunettes. Cul blanc. Tueur.
On est où ici là?
Chanfleurie. Chanfleurie C. Avignon.
Il y a une petite cabane et il y a la fête.
C'est Deleuze Monumental. C'est une cabane. C'est un philosophe qui est mort.
Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs qui viennent, il y a des gens.
Ouais, des touristes.
Et de temps en temps, c'est nous qu'on surveille et on fait visiter les gens.
Oui. On joue aux cabanes, on entend de la musique, mais on la met en fond.
Et on joue aux cartes,
c'est bon, on joue aux cartes.
Non, ils sont pas très bien. Les glaces, 5 francs le magnum, 4 francs le cornet, 2 francs le pirouli, 5 francs les soleros, les bâtonnets, 3 francs. Et voilà. Et les oasis tropicales, Fanta, Orangina, 7-Up, Coca, Sprite, 5 francs. Aziz.
Qui c'est qui était là quand ça s'est construit?
Moi.
Il vient d'aménager, mais c'est un peu bizarre.
Il dit qu'il était là, il est bizarre.
Avant, au lieu d'appeler champ fleuri, on l'appelait un champ rempli de fleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Maintenant, on le surnomme champ pourri, parce que c'est un champ avec plein d'ordures, plein de saletés. Les gens ne font plus attention. Et hélas, c'est comme ça que ça se passe.
Première émission de la Poly Pocket Radio, la Poly Radio Pocket, qui s'installe, Pocket, c'est pas Pocket, c'est Bucket, hein, qui s'installe ici dans le quartier Champfleury. Donc merci déjà d'accueillir la radio dans votre quartier.
Je vous en prie, merci à vous.
Alors le C, c'est le bâtiment qui est là derrière nous.
Exactement, c'est celui-là qui reste, avec le D qui est pas très loin. Mais c'est celui-là qui est plus le plus délabré, non?
Il y a l'abandon, complètement.
Il y a l'abandon. Alors, comme la sœur dit, il faudrait d'abord faire tout l'intérieur et l'extérieur, surtout l'intérieur des maisons qui sont invivables, qui sont très sales, très délabrées.
Les parquets, ils ont 30 ans. Ils sont tout troués tellement ils sont usés ici, tout seuls. Quand on va pour demander pour réparer, oui, mais on viendra, il n'y a personne qui vient. Alors, ils ont fait la cuisine et les toilettes, oui, le parquet et la salle de bain. Alors, la moitié, le toilette, comme il est plus petit, plus grand, par rapport au parquet, il y a des trous. Il a manqué la moitié des morceaux et c'est laissé comme ça.
Ce qu'ils font, c'est juste l'extérieur. Mais c'est pas l'extérieur, nous, qu'on veut. C'est l'intérieur, c'est là où les gens habitent, non?
Les noirs, tellement qu'on les lave avec la javel, ils sont usés. Alors, ils deviennent tout noirs.
Oui, devenir blanche, ils sont noirs, quoi.
À la longue, vous savez, comment on appelle non. ça? Qui brille dessus, là. Voilà, l'émail à la longue.
Comme des dents.
Alors, il n'y a plus d'émail, ça devient tout noir.
Avant, au lieu d'appeler champ fleuri, on l'appelait un champ rempli de fleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Maintenant, on le surnomme champ pourri, parce que c'est un champ avec plein d'ordures, plein de saletés. Les gens ne font plus attention. Et hélas, c'est comme ça que ça se passe. Et la mairie, parlons-en à la mairie. On a beau écrire, on a beau pleurer, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste au moment des élections qu'on vote pour eux.
Et je vote pas, ils peuvent crever la bouche ouverte.
Il ne faut pas que les gens, quand ils ne font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Il n'y a pas de concept philosophique qui le renvoie à des déterminations non philosophiques.
C'est avant, au lieu d'appeler champ fleuri, on l'appelait un champ rempli de fleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Maintenant, on le surnomme champ pourri, parce que c'est un champ avec plein d'ordures, plein de saletés. Les gens ne font plus attention. Et hélas, c'est comme ça que ça se passe.
Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul.
Et voilà, c'est bien que je délaisse mon mental. Et voilà, voilà.
Tu as dit la femme de cul.
Non, tu as tout à fait raison.
Je m'appelle Mourad, je m'appelle Abdelaziz, je m'appelle Jamel,
je m'appelle Abdel.
Maintenant notre surnom.
Squelette.
Là, négro.
Squelette.
Canard. Serpent lunettes. Cul blanc.
Bonjour. Attendez, j'ai besoin de mon papier parce que je vais lire ce qu'il y a dans le Larousse. À Deleuze, qui s'écrit aussi avec un D. Alors il y a Deleuze, Gilles, philosophe français, né à Paris en 1927. 25, pardon.
Dans le Larousse, pardon,
hein. Voilà, aujourd'hui on est en 88. Avec Félix Guattari, il montre l'importance du désir et son aspect révolutionnaire face à toute institution, même psychanalytique. Alors justement, puisque tu passes aux yeux de tous pour le philosophe du désir, je voudrais qu'on parle du désir.
Moi, je crois qu'on voulait dire une chose, mais vraiment très simple. On avait bien une grande ambition, à savoir que jusqu'à ce livre, quand on fait un livre, c'est qu'on prétend dire quelque chose de nouveau. Ben, on prétendait que, d'une manière ou d'une autre, les gens avant nous, ils n'avaient pas bien compris ce que c'était que le désir. C'est-à-dire, on faisait leur stage de philosophe, on prétendait proposer un nouveau concept de désir. Mais dans les concepts, faut pas que les gens, quand ils font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Il n'y a pas de concept philosophique qui renvoie à des déterminations non philosophiques. C'est très simple, c'est très très concret. Ben, on voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Alors, vous pouvez dire, je désire une femme, je désire partir, faire tel voyage, je désire ceci, cela. Et nous, on disait une chose vraiment simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour que il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables. Je veux dire, je désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je connais pas et que je pressens, et tant que je vais pas dérouler le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme, paysage, mais c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Alors là, on pourrait revenir, c'est autant de fait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool, boire. Mais boire, ça n'a jamais voulu dire je désire boire, et puis voilà. Ça veut dire ou bien je désire boire tout seul en travaillant, ou bien boire tout seul en me reposant, ou bien aller retrouver les copains pour boire, aller dans tel petit café. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule, je dis bien qui ne coule dans un agencement. Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement. C'est construire un ensemble, l'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil,
d'une chambre,
d'une rue, voilà, l'agencement d'une femme, d'un paysage, d'une couleur, voilà ce que c'est un désir. C'est donc construire un agencement, c'est construire une région, c'est construire, c'est vraiment agence.
Et voilà, c'est bien de faire du délaissement mental. Et voilà, voilà.
Il ne faut pas que les gens, quand ils ne font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Il n'y a pas de concept philosophique qui le renvoie à des déterminations non philosophiques.